Hey, you know what?
Nous allons passer la semaine ensemble en compagnie de l'historien et archéologue Paul Venn, fils ô combien spirituel de Michel Foucault et Jean-Pierre Vernant. Une série d'émissions réalisées en partenariat avec les hors-séries du Point, construit et animé par Catherine Goliot. Paul Venn n'est pas seulement un historien fameux et un remarquable conteur, c'est aussi et d'abord un homme délicieux qui attend ses invités tout sourire, flanqué d'un labrador ventripotent à l'entrée d'une maison perdue dans les vignes. Au deuxième étage de la baraque, niche un petit bureau tapissé de livres et de gravures qui encadre un dessin versifié de l'ami René Char. Trois chaises nous attendent, Paul Venn nous sert un whisky glacé, il est midi, l'entretien peut commencer. D'où vous vient, Paul Venn, cet amour pour Rome ?
D'un hasard, quand j'avais 6 ans, j'ai eu un professeur de 6e qui était passionné par les choses antiques, mais aussi et surtout, à l'âge de 8 ans, j'ai trouvé un tesson romain, une pointe d'amphore.
Vous l'avez trouvé par terre ?
Par terre, sur la colline de Cavaillon. Ça m'a fait l'effet d'un aérolithe venu d'un autre monde. Et le peu que j'ai appris de ce monde ensuite, par exemple à l'école primaire, c'est que ce monde n'était pas chrétien. Donc c'était quelque chose de totalement différent. Un autre astre. Le Japon m'aurait fait le même effet si j'avais été dans un milieu cultivé. Peut-être aurais-je fait du japonais. Mais à défaut de faire du japonais, je fais de l'antiquité. Et comme j'ai trouvé quelqu'un qui était persuadé, à savoir Michel Foucault, que vraiment il n'y a rien à voir avec l'antiquité païenne et nous, eh bien, j'ai été très ami avec lui.
Ah, Michel Foucault, vous venez de faire paraître un livre sur lui. Ce n'est pas l'objet de ces conversations, hein, mais vous devez beaucoup à Foucault, notamment en termes de méthodologie, j'imagine, et d'interprétation des faits, de connaissance des faits historiques.
Pour la connaissance des faits historiques,
enfin, de ce qu'on peut appeler un fait, d'ailleurs.
C'était un type qui apprenait une civilisation en 6 mois, de même que Dumézil apprenait une langue en 1 mois, quitte à l'oublier après. Mais je dois dire que la capacité d'analyse abstraite de Foucault, même appliquée à des phénomènes historiques, était telle que je ne pouvais pas rivaliser. J'ai fait de l'histoire à ma manière, tant bien que mal. Et quand j'ai essayé de philosophiser, ce n'était pas très fameux.
Mais c'était un héritage foucaldien, ça c'est une...
Non, c'était antérieur. J'ai toujours été persuadé, depuis la jeunesse, depuis que j'ai lu les premiers livres d'histoire, que dans l'analyse des faits, pour serrer au plus près la nature d'un fait et le rendre différent des faits actuels qui semblent les mêmes, on peut toujours aller plus loin.
C'est-à-dire...
On peut toujours singulariser davantage une chose.
Alors, qu'est-ce que vous appelez singulariser ? Parce qu'on va consacrer quand même un moment de ce premier entretien avec vous, Paul Venn, à la façon dont, à la méthode que vous mettez en œuvre, que vous proposez, à l'interprétation, par exemple, à la notion d'intrigue, à ce qu'est un événement. Vous parlez de la singularité d'un événement. Alors, intuitivement, hein, dans l'esprit des gens, la singularité d'un événement, c'est un événement qu'on isolerait du reste.
Ce n'est pas un événement qu'on isolerait du reste, c'est le fait qu'un événement du passé, quel qu'il soit, ne se rattache pas à une espèce, à un genre, à une rationalité, à un truc bien connu. C'est toujours une formation bizarroïde, aux frontières aussi arbitraires que celles d'un caillou ou que celles des frontières historiques des États, et sous lequel on ne trouve aucune rationalité, aucune fonction humaine, aucune vocation de l'humanité. L'humanité est un produit du chaos et est elle-même un chaos, et ce chaos change à toutes les époques.
Mais en même temps, la différence entre un événement et un caillou, c'est que le caillou a une forme fixe, stable, quel que soit l'angle finalement sous lequel on le regarde. Or, vous semblez dire que la nature de l'événement est modifiée selon ce qu'on y cherche.
Ça, oui, elle est modifiée selon ce qu'on y cherche. C'est en effet le second grand problème que pose l'histoire. Par exemple, on peut s'attacher, comme Foucault, à voir quelle est la singularité, la bizarrerie de chaque événement qui le fait différent des événements qui nous semblent semblables, qui nous paraissent semblables. Mais on peut aussi, évidemment, comme vous le dites, essayer, comme fait l'école des annales, d'expliquer les événements, soit en les rapportant à la société, soit en les mettant en intrigue. C'est un autre but de l'histoire. Il y a plusieurs façons de faire l'histoire, Et le vain conflit entre Foucault et les historiens est venu de ce qu'aucun d'eux ne pouvait admettre, que sa façon de faire l'histoire n'était pas la seule possible.
Mais en même temps, Paul Venn, que reste-t-il à l'objectivité dans cette démarche? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que finalement, si la nature d'un événement varie selon le regard qu'on pose sur lui, qu'est-ce qui fait que, en valeur absolue, reste-t-il une valeur absolue, un événement compte plus qu'un autre? Je vous cite, comment un fait y serait-il plus important qu'un autre en histoire? Comment tout ne se réduit-il pas à une grisaille d'événements singuliers? La vie d'un paysan nivernais vaudrait celle de Louis XIV, ce bruit de klaxons qui monte en ce moment de l'avenue. Alors là, on est épargné, évidemment, puisque on est chez vous, Paul Venn, on n'entend pas les klaxons, mais ce bruit de klaxons qui monte en ce moment de l'avenue vaudrait une guerre mondiale. Il faut qu'il y ait un choix en histoire pour échapper à l'éparpillement en singularité, justement.
Il y a deux problèmes tout à fait différents. Le premier problème, c'est qu'un événement, dans sa singularité, dans ses frontières historiques bizarres, dans son arbitraire de cailloux découpés au hasard, est ce qu'il est, et quelques perspectives qu'on prenne, on ne peut pas le changer. Il n'est pas vrai que les choses varient avec l'interprétation qu'on en donne. Les choses, en leur temps, ont été ce qu'elles étaient. Un texte n'est pas son propre... On peut commenter un texte de toutes les manières, si l'on est capricieux. Mais le texte n'est pas son propre commentaire. Il est ce qu'il est. Et Foucault est un positiviste, et tous les historiens le sont, qui croient que les événements sont ce qu'ils sont. Il y a un autre problème. Qu'est-ce que c'est que l'histoire avec un grand H? Alors là, c'est un tout autre problème. C'est le choix que vous en faites. Vous pouvez préférer l'histoire politique, vous pouvez préférer l'histoire par mise en intrigue, vous pouvez préférer l'histoire en la rapportant à la société, vous pouvez préférer, comme Foucault, l'histoire comme explicitation et non pas explication de ce que furent ces singularités qu'ont été, par exemple, la sexualité antique ou les supplices d'Ancien Régime.
Pour reprendre un exemple que vous donnez vous-même dans « Comment on écrit l'histoire », dans une histoire militaire de la guerre de 14, dites-vous, un coup de main aux avant-postes importe moins qu'une offensive qui occupa à juste titre les grands titres des journaux. Dans la même histoire militaire, Verdun compte davantage que la grippe espagnole, mais dans une histoire démographique, ce sera l'inverse.
Oui. Alors, il y en a un exemple éclatant. Il existe une histoire de l'Amérique du Sud au XIXe siècle, écrite par un Français, qui ne mentionne pas ce fait énorme que la population de l'Amérique du Sud, les précolombiens, était passée de 10 millions de personnes à 1 million, par suite des microbes qui ont été introduits par les Européens. Parce que l'homme qui a écrit cette histoire a considéré que ce qui est important, c'est la grande politique et c'est la christianisation.
Et donc il a passé sous silence.
Il a passé sous silence.
Mais est-ce que sa démarche est légitime?
Sa démarche serait légitime si l'on pouvait isoler l'histoire politique de l'histoire démographique. Ce sont deux histoires différentes, mais enfin elles ont quelques recoupements.
À vous entendre, on comprend pourquoi Paul Venn, tous les historiens, il me semble que c'est encore plus le cas aujourd'hui, ne racontent jamais l'histoire sans prendre la peine de s'interroger sur leur propre démarche. C'est-à-dire que l'histoire se donne d'emblée comme une démarche réflexive. Est-ce que j'ai raison de penser ça?
Vous avez absolument raison. Chacun a sa méthode, y tient fortement et essaie de l'expliciter, de la dire. Ça c'est vrai, mais cette conscience historique...
À quoi tient-elle?
Au marxisme. À la libération. À la libération, la grande affaire a été de savoir si on serait marxiste ou si on ne le serait pas. Mais si l'on était marxiste et si l'on était membre du parti, on était tenu d'être le meilleur dans sa catégorie, par exemple historien, et on était aussi tenu d'avoir une doctrine, le marxisme, à la base. Donc l'histoire est devenue auto-philosophisante, si j'ose dire, chez les marxistes et chez les anti-marxistes. Chacun a voulu rendre compte et justifier ce qu'il faisait.
Mais ça veut dire que le traitement de l'histoire en lui-même, ce qui est intéressant, c'est que les partisans d'une histoire marxiste, c'est-à-dire finalement une histoire où les rapports de force l'emporteraient sur les décisions individuelles.
C'est en effet une des conséquences. Vous avez raison.
Les partisans de cette histoire-là, de cette lecture-là de l'histoire, ont réfléchi sur leur propre démarche. Du coup, certains d'entre eux, d'ailleurs, ont peut-être, si j'ose dire, guéri de cette tentation.
Oui, il est vrai que...
Je pense à Furet, là, en vous disant ça.
Oui, mais... il a fait plus que guérir.
Il en a guéri d'autres.
Il en a guéri d'autres, et peut-être a-t-il attrapé la maladie inverse, mais enfin, bon. Glissons. Bon,
glissons sur le cas Furet, qui pourtant est important. Hein,
parce est que important c'est... parce que c'est l'exemple même de l'homme dont toute la méthode s'est constituée en se rendant compte des sottises qu'il professait quand il était marxiste. Mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous.
Alors, vous-même, Paul Venn, vos rapports avec le marxisme...
J'y ai toujours cru, mais à moitié, ce qui a été un des grands problèmes
à moitié
de ma vie.
Comment pouvez-vous être marxiste à moitié?
Non, je n'y croyais qu'à moitié.
Ah oui.
J'étais...
Quelle moitié?
Oh, j'avais un dévouement pour toutes les nobles causes. Et puis je pensais que, somme toute, dire que la situation économique, ce qu'il y a d'essentiel, savoir si les gens ont à bouffer et à clore les fins de mois, c'est quand même plus important que tout. Mais enfin, je n'y croyais quand même pas très bien. Et puis dès qu'on s'attaquait à un problème historique, on s'apercevait que ça marchait pas. Alors, bon, il y avait cette espèce d'état d'esprit fait d'un dévouement évangélique au sort des malheureux et en même temps d'une mauvaise foi qui n'y croit pas trop. En 56, tout a explosé. Vous savez bien.
Le 20e congrès, hein. Donc ça, c'est le 20e congrès, le rapport Khrouchtchev. Voilà.
Le rapport Khrouchtchev et l'invasion de la Hongrie. Bon. La moitié du parti s'est vidée.
Et est-ce qu'avec le rapport Khrouchtchev, on n'est pas là en présence justement d'un événement incontestable, quel que soit l'angle sous lequel on le regarde?
Bien entendu.
Donc il y a quand même une limite à la façon
dont... Je suis positiviste. Les événements sont ce qu'ils sont. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. On ne les interprète pas comme on veut. Quand on les interprète comme on veut, on en fait des banalités. Quand on les prend tels qu'ils sont, on s'aperçoit de leur bizarrerie, de leur singularité.
Alors, il faut rappeler à l'auditeur qu'on est ici pour parler de Rome, mais quand même, Paul Venn, parce que cette conversation est essentielle pour bien comprendre le sens de votre démarche et de l'historien. Prenons encore un exemple.
Oui.
D'un point de vue strictement marxiste, par exemple, l'émergence du nazisme, le phénomène du nazisme dans les années 30, l'émergence du nazisme. Un historien marxiste, mais orthodoxe, si j'ose dire, y verrait... À bon droit d'ailleurs, parce que c'est certainement vrai pour une partie, le résultat d'un rapport de force, de jeu, de force de production, de crise, qui suscite l'émergence d'une doctrine pestilentielle. Une autre forme d'historien s'attacherait davantage à la teneur idéologique du discours nazi, plus encore qu'aux conditions de son émergence, non ?
Oh, les deux sont vrais. Il est vrai que le marxisme a été soutenu par une partie de la grande bourgeoisie allemande qui y voyait... une sécurité contre la révolution bolchevique qui avait failli, faut pas l'oublier, renverser l'Allemagne. D'autres, par patriotisme, ont été nazis, d'autres l'ont été par ressentiment contre la défaite, d'autres par l'idée de faire enfin une grande Allemagne par patriotisme, d'autres par faiblesse interne, ayant besoin d'uniformes et de défilés en masse pour se rassurer sur leur propre compte. Les explications sociales, psychologiques, économiques, etc., tout est vrai à la fois. Il faut simplement ajouter que le poids des individus compte encore. Tous les individus qui se sentaient faibles de caractère ne sont pas pour cela même devenus nazis en uniforme. Tous les grands bourgeois n'ont pas été pro-nazis. Ce qui avait été pour ma génération l'expérience décisive, ça a été... un épisode aujourd'hui oublié qu'on appelle la CED, la Confédération de Défense Européenne. Nous avons, nous qui étions au parti...
L'échec de la CED.
L'échec de la CED. Nous avons appris avec stupéfaction que le grand patronat, qu'on croyait partisan de cela, était très divisé. Il y avait autant d'adversaires que de partisans. À aucun moment, la liberté individuelle ne peut être abolie.
Alors, du coup, ce qu'on comprend aussi, vous êtes positiviste, donc un événement est un événement, il s'est déroulé comme il s'est déroulé.
Il a le sens qu'il avait en son temps et n'en a pas d'autre.
D'accord, mais quand même, il n'y a pas de vérité possible.
Ah, entendons-nous.
Parce qu'il faut distinguer les termes aussi pour l'auditeur,
parce que
c'est pas la même chose de dire qu'un événement est un événement et de dire qu'il y a une vérité.
S'il s'agit de savoir en quelle date a eu lieu la bataille de Teutoburg, s'il s'agit de savoir si les chambres à gaz ont existé, s'il s'agit de savoir si Dreyfus est innocent, et s'il s'agit de savoir si la sexualité antique, c'était les plaisirs vénériens et non la chair...
On va en parler plus tard, oui.
Ça, c'est incontestable. Mais s'il s'agit de savoir quelle est la destinée de l'humanité, s'il y a un sens de l'histoire, si Dieu existe, si vraiment l'histoire voit ou ne voit pas le progrès, tout ça, ces grandes idées, nous n'en savons rien et nous n'en saurons jamais rien. Distinguons les grandes vérités et les vérités de fait qui, elles, sont incontestables ou devraient l'être.
If you have tears, prepare to shed them now. You all who know this mantle, I remember the first time ever Caesar put it on was on a summer's evening in his tent that day he overcame the Nervii. Look in this place ran Cassius' dagger through. See what a rent the envious Casca made. Through this, the well-beloved Brutus stabbed. And as he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it. As rushing out of doors to be resolved if Brutus so unkindly knocked on now.
Autre terme dans la méthodologie historique, oui. Autre, Polven, c'est la notion d'intrigue, qui est cruciale, à tous égards d'ailleurs, parce que vous en parlez comme de quelque chose de crucial, justement, qui est au carrefour de tout ça. Qu'est-ce qu'une intrigue ?
Je crois que ce que j'ai essayé de dire confusément il y a 40 ans à ce sujet est ceci, c'est que les événements historiques ne sont pas dirigés par une grande puissance souveraine qui serait soit le sens de l'histoire, soit les rapports et forces de production marxistes, mais qu'à tout moment il y a sur Terre des individus, des groupes, des classes sociales, des conflits, etc., qui se battent entre eux, et il faut arriver à expliciter comment ces acteurs de la tragédie historique, car enfin l'histoire hélas est tragique, comment ces acteurs de la tragédie historique se sont battus entre eux, qui a gagné ce qu'ils ont fait.
En quel sens ?
C'est un refus, si vous voulez, de l'idée qu'il y a un premier moteur, un grand sens de l'histoire qui gouverne tout.
Vous dites l'histoire est tragique, vous le dites au sens où certains événements seraient, comme on dit, tragiques.
Oui, tout simplement.
Tout simplement.
Mais aussi au sens où ça n'a pas de grand sens.
C'est ce que j'allais vous demander.
Voilà. Au sens nietzschéen aussi.
C'est-à-dire que vous refusez, vous envisagez aussi la perspective d'une histoire tragique où il ne s'agirait pas de lire dans une époque les linéaments de celle qui suivra ou...
Oui.
Il y a aussi une façon de singulariser les époques dans votre travail.
Oui, à chaque moment, l'humanité est déchirée, vit sous un ciel déchiré entre des valeurs qui sont des valeurs provisoires, se bat pour tel ou tel idéal, se bat pour tel autre. Et en réalité, ces idéaux, deux générations après, on n'y pensera même plus, on trouvera ça amusant ou grotesque ou tragique, comme on voudra. Le tragique, c'est que nous ne connaissons pas le fin fond de la vérité générale des choses. Nous ne connaissons pas notre propre sort, notre propre destinée.
Par conséquent, l'hypothèse même du déterminisme, ça va au-delà du marxisme en somme, c'est que l'hypothèse même d'une histoire déterministe n'a pas de sens pour
non,
vous.
Non, n'a pas de sens.
C'est un l'idée de donner un sens n'a pas de sens
non.
En fait.
Il y a un déterminisme comme pour les accidents de voiture.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire un tas de petits faits qui se réunissent, deux voitures se choquent, il y a un mort. C'est tragique en ce sens qu'il y a un mort, mais c'est tragique aussi en ce sens que c'est une rencontre de hasard.
Alors, est-ce l'effet d'une rencontre de hasard on fait dater de la nomination d'Auguste, la désignation d'Auguste comme princeps, hein, comme
oui,
prince,
oui.
La naissance de l'Empire, romain, par exemple, pour prendre cet exemple sur lequel on va rester maintenant avec vous, Polven, toute la semaine pour nos auditeurs.
Il se passait ceci, que depuis 70 ans, les Romains vivaient en état de guerre civile.
Pourquoi 70 ans ? Pourquoi ?
Tout le premier siècle avant Jésus-Christ, ou presque, est occupé par des guerres civiles. Et ces guerres civiles sont allées si loin qu'elles ont failli voir la coupure en deux de l'Empire romain. Parce qu'enfin, les amours célèbres d'Antoine et de Cléopâtre, de la passion desquelles je ne doute pas un instant, signifiaient aussi que Cléopâtre réunissait pour son amant Antoine toutes les forces d'Orient, créait un empire d'Orient, séparé désormais de l'Empire romain, coupé en deux. L'Empire romain était privé de sa moitié et il y avait deux empires concurrents face à face.
Il faut remettre les choses dans leur contexte pour tous nos auditeurs qui n'ont pas en tête forcément les détails d'ailleurs de l'histoire de Rome, même de cette époque fameuse. Antoine et Cléopâtre, là, on est entre moins 40 et moins 30 à peu près.
C'est cela.
Et Antoine a été défait par Octave, futur Auguste, à la bataille, c'est la bataille d'Actium.
À la bataille d'Actium. Et alors, du coup, l'Égypte et tout l'Orient retombent dans le sein de Rome. L'Empire romain ne sera pas coupé en deux, ne perdra pas sa moitié orientale. Il redevient aussi grand qu'avant. Et en même temps, les guerres civiles sont finies parce qu'on a fini par admettre, bon, qu'il y aurait un magistrat suprême qu'on appellerait l'empereur et que quiconque se lèverait contre ferait une chose qui n'est plus légitime.
Mais est-ce que la désignation d'empereur, puisque l'épisode que vous mentionnez, c'est 27, c'est moins 27.
C'est moins 27.
C'est-à-dire, c'est le triomphe d'Auguste, en somme.
C'est le triomphe d'Auguste.
Avant, le monde, c'est-à-dire Rome, s'était séparé entre trois personnes. L'un, l'Afrique, Alain, l'Afrique, c'était Lépide.
Oui.
Alain, Cléopâtre, c'était
tout l'Orient.
Tout l'Orient. Et au troisième, l'Occident, c'était Octave. Il y a le triomphe d'Octave en 27, mais il ne se désigne pas lui-même comme empereur.
Ah non, il n'est jamais que le premier magistrat.
Princeps,
il
est le prince.
Le princeps, il est le premier. Il est premier magistrat, il est tout puissant, mais il est censé l'être proclamé par quoi ? Eh bien, théoriquement par le Sénat, mais en réalité par l'assentiment de tous. Tout le monde est d'accord. Il est élu, si vous voulez, à main levée, ou même sans lever la main, par tous les Romains possibles.
On raconte qu'il a forcé la main, d'ailleurs, des sénateurs. Est-ce que c'est vrai, ça ? Est-ce qu'on le sait ?
De toute façon, étant donné la puissance qui était la sienne, il était établi, et les autres n'avaient plus qu'à s'incliner de leur plein gré. D'autant plus qu'il y a un élément qui joue. La conception romaine du pouvoir est qu'un homme qui a un pouvoir, un magistrat, enfin, pardon, disons un gouverneur de province, ou l'empereur, c'est-à-dire le premier magistrat de l'Empire, a les mêmes pouvoirs que, chez nous, un officier sur le champ de bataille, c'est-à-dire qu'il a le droit de vie et de mort sur les hommes. Quand un empereur envoie se faire couper la tête un sénateur, cet acte que nous jugeons tyrannique n'en est pas moins parfaitement légal. Dans le monde romain, le chef fait de la discipline. Et faire de la discipline, ça consiste à faire couper la tête. Évidemment, les sénateurs peuvent n'être pas contents, mais mieux vaut pour eux ne pas trop le montrer quand le maître est devenu le maître et qu'il a toute une garde qui l'appuie.
Mais alors revenons sur cette désignation d'empire. Il y a une ambiguïté, en tout cas on la retrouve dans vos livres, Paul Venn, et je voudrais savoir à quoi tient cette désignation d'empire romain. Est-ce que l'empire romain a été nommé ainsi du fait de ses conquêtes, c'est-à-dire d'un comportement qu'on baptiserait aujourd'hui impérialiste, ou bien est-ce que l'empire romain, c'est finalement les novations de sa structure administrative qui font qu'on a pu parler d'empire à un moment ? Qu'est-ce qui fait d'ailleurs qu'on est passé à la notion d'imperium et donc d'empire ?
Eh bien, on a cessé d'employer deux mots pour le désigner, qui ne le désignaient en fait pas. Tantôt on disait l'imperium, c'est-à-dire la puissance romaine, le commandement romain, ce n'est pas les régions sur lesquelles Rome commandait, ce n'était pas l'empire colonial anglais, ce n'était pas l'empire colonial français, c'était la souveraineté romaine sur des peuples soumis. Ensuite, il y a un mot qu'on employait, qui était un mot sacré, qui était la Constitution, la Res Publica, la République, qu'on a cessé pendant 4 siècles d'employer. À Rome, il y a un pouvoir légal. Dans ce pouvoir, l'empereur n'est que le premier magistrat et le premier des sénateurs, censément, bien sûr. Alors, vous entendrez tout à fait couramment parler de République en plein 4e siècle après notre ère, après 4 siècles de pouvoir que nous appelons impérial. L'Empire, c'est l'autorité de Rome, et Rome a une constitution, elle est une république, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas une cité, quelque chose qui n'est pas une ville-tribu sauvage dirigée par un cheikh, elle est quelque chose qui est constitué avec des règles qui sont très strictes.
Mais alors que vaut, Paul Venn, selon vous, la répartition classique, traditionnelle, quand on fait la chronologie de Rome, de l'ensemble romain, c'est-à-dire de l'épisode Romulus-Rémus, donc de la fondation de Rome, jusqu'au 6e ou au 5e siècle ou au 7e siècle, ça dépend des historiens. Certains font même aller Rome d'ailleurs jusqu'à Constantinople, enfin jusqu'au 15e siècle quasiment. Que vaut cette répartition, selon vous, en trois moments qui seraient d'un premier temps la royauté, puis la République, puis l'Empire. Est-ce qu'on peut figer véritablement ces trois moments dans l'histoire romaine?
Oui, parce que les contemporains eux-mêmes ont eu tout à fait conscience qu'après l'époque où Rome était une république dirigée par une foule de magistrats et des consuls, et deux consuls dont aucun n'est tout puissant, on était passé avec Auguste en 31, ou comme vous le dites mieux, en 27, à un régime qui était en fait une monarchie sans le nom. Ils se sont dit tant mieux, ainsi il n'y aura plus de guerre civile, en quoi ils se trompaient bien d'ailleurs.
Alors c'est vrai que quand on pense par exemple à la rapidité avec laquelle, par exemple en France, entre 1789 et 1815, on est passé de la monarchie constitutionnelle à la République, puis de la République à la Restauration, à l'Empire, puis de l'Empire à la Restauration, puis de la Restauration à l'Empire de nouveau, etc., etc., on se dit que l'histoire romaine, malgré ces événements sanglants qui la jalonnent en permanence, puisque deux princes sur trois ont été assassinés, vous le rappelez, malgré ces épisodes, l'histoire romaine est plus simple à comprendre finalement. La chronologie en elle-même...
Ah, la chronologie est indubitable, elle était pour les contemporains. Il y a eu l'époque de la République où rivalisaient les grandes familles de l'oligarchie, et il y a eu la période impériale où il y avait un empereur et un seul et sa famille qui sont au pouvoir tant qu'un rival ne se lève pas à la tête d'une armée.
Alors on a beaucoup dit d'ailleurs de la Rome impériale. Faisons dater pour des commodités de langage dans la conversation le départ de la Rome impériale à Auguste qui, rendant soi-disant ses pouvoirs au Sénat, en vérité conserve la haute main sur tout ça et se donne un rôle presque transcendant, presque divin, qui sera repris d'ailleurs plus tard par les derniers empereurs qui s'attribuaient eux-mêmes une vocation divine et une monarchie de droit divin.
Une monarchie de droit divin, oui, tout chrétien qu'ils étaient.
Alors faisons dater ça donc de l'arrivée d'Auguste. On a beaucoup dit de la Rome impériale qu'elle était à la fois la fille aînée et en même temps la mauvaise élève de la Grèce. Et c'est de cela qu'on va parler principalement tout à l'heure pour nous et demain pour nos auditeurs. Mais je voudrais avoir d'abord, à titre liminaire, votre sentiment là-dessus. Est-ce qu'on peut dire de Rome, de son rapport à la Grèce, qu'elle était dans la situation du nain sur les épaules d'un géant?
Elle est dans la position du nain sur les épaules d'un géant, mais dans un domaine et dans un seul, qui est la culture. Pour la politique, il n'en est pas question. Les Romains ont la vocation de commander, ils commandent, ils savent le faire, ils ont leur système pour faire cela, ils n'ont aucune leçon à recevoir des Grecs, qui du reste n'en peuvent pas donner, puisque tout ce qu'ils ont, c'est des petites royautés et surtout une division en cités. Mais pour tout ce qui est la culture, alors là, y compris la façon de s'habiller, c'est évidemment la civilisation grecque qui est la civilisation universelle.
Et le désir d'universalité de la civilisation romaine leur vient de cette filiation.
Ils se sont mis dans les habits culturels des Grecs et ils sont devenus la civilisation. L'Empire romain est un immense noyau civilisé au milieu d'un monde complètement informe. Mais cette civilisation est essentiellement grecque. Et... sauf qu'il y a une autorité, un impérium. Ça, ce sont les Romains qui commandent.
Donc on peut dire des Grecs qu'ils ont inventé la démocratie, on ne peut pas le dire des Romains.
Oh non, ça ils l'auront jamais inventé.
Même sous l'époque républicaine, on ne peut pas parler à aucun moment...
Ça a toujours été une oligarchie de grande famille.
Quelle que soit l'époque. Quand les ides de mars, quand on tue César, au nom de quoi est-ce qu'on tue César? On dit c'est au nom de la République, mais est-ce que c'est au nom d'une certaine idée de la liberté?
Est-ce
que c'est anachronique de le penser?
Non, c'est bien au nom de la République. Si l'on entend par République, comme à Florence jusqu'en 1500, le fait qu'il y a quelques grandes familles qui occupent le devant de la scène et naturellement qui rivalisent entre elles et aucune ne veut que l'une d'entre elles soit plus puissante que les autres. César veut se faire tout puissant, ce n'est pas admissible pour les autres membres de l'oligarchie.
Mais uniquement pour eux.
Uniquement pour eux, oui, bien entendu.
Si le nez de Cléopâtre avait été plus long, si le grand Paganini n'avait pas joué de violon,
et si Roméo n'avait pas rencontré Juliette,
on n'en serait pas là.
Si vraiment tous les chemins ne menaient pas à Rome,
si le père Adam n'avait pas tant aimé les pommes,
si les gars de Jéricho n'avaient pas eu de trompette.
Voilà, c'était le premier temps d'une semaine entière que les Nouveaux Chemins de la Connaissance vous proposent de passer en compagnie de l'aimable Paul Venn. Demain, nous parlerons de la Grèce, du géant grec, debout sous les jambes du nain romain. C'était les nouveaux chemins de la connaissance avec à la technique Christian Chazalon et Axel Brizard, à la réalisation François Connac, une émission proposée par Raphaël Antoven. À demain donc 19h30 pour de nouvelles tribulations antiques. France Culture, il est 20h.